Chapitre 20. Directive concernant la guerre. Différence de dispensation. Quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras point peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et il arrivera que, quand vous vous approcherez pour le combat, le sacrificateur s'approchera et parlera au peuple et leur dira « Écoute, Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse point, ne craignez point, ne soyez point alarmés et ne soyez point épouvantés devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. » Versets 1 à 4. L'Éternel se présente ici comme un guerrier combattant contre les ennemis de son peuple. Beaucoup de personnes ne peuvent comprendre que Dieu puisse revêtir un tel caractère. Cela vient de ce qu'elles ne font pas la différence des dispensations. Le Dieu d'Israël maintient tout autant son caractère en combattant contre ses ennemis que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ en leur pardonnant. Or, c'est le caractère sous lequel Dieu se révèle qui donne à son peuple le modèle sur lequel il doit se former et d'après lequel il doit agir. Ainsi, Israël était tout aussi conséquent en exterminant ses ennemis que nous le sommes en aimant les nôtres. Il est tout à fait évident que l'Église ne doit pas faire la guerre. Il nous est positivement commandé d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et de prier pour ceux qui nous font du tort et nous persécutent. Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée, dit le Seigneur à Pierre. Matthieu 26, verset 52. Et, dans un autre évangile, remets l'épée dans le fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Jean 18, verset 11. Et plus loin, notre Seigneur dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Jean 18, verset 36. Notre bien-aimé Sauveur ne combattait pas. Il supportait avec douceur et patience toute espèce d'injure et de mauvais traitement. Il nous a ainsi laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Si nous nous demandions avec sincérité « Que ferait Jésus dans tel ou tel cas ?» cela mettrait bien souvent fin à toute discussion. Les paroles et l'exemple de notre précieux Seigneur et l'enseignement de son esprit par ses apôtres sont suffisants pour nous guider pleinement. Écoutons ce qu'enseigne le Saint-Esprit sur ce grand sujet pratique. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes, ne vous vengeant pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, versets 18 à 21. Tels sont les principes du royaume céleste auxquels tous les vrais chrétiens appartiennent. Mais les principes qui devaient guider Israël étaient différents. Si Josué avait traité les Cananéens d'après les principes posés en Romains 12, cela aurait été une inconséquence aussi nette que si nous agissions d'après les principes du chapitre 20 du Deutéronome. Au temps de Josué, Dieu exécutait le jugement en justice, tandis que maintenant il agit en grâce. C'est le principe selon lequel Dieu agit qui fournit la règle morale pour les enfants de Dieu, et cela dans tous les temps. Nous parlons ici de la conduite du chrétien dans un monde où il est absolument étranger. Nous n'avons pas à vouloir que les dirigeants de ce monde agissent selon les principes chrétiens. Le temps n'est pas encore venu où, de leurs épées, les peuples forgeront des socs et de leurs lances des serpes, et où on n'apprendra plus la guerre. Ésaïe 2, verset 4. Cet heureux temps viendra, et bientôt cette terre qui gémit sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Ésaïe 11, verset 9. Nous ne sommes pas appelés à régler le monde, mais à le traverser comme étranger et voyageur. Jésus n'est pas venu pour redresser le monde. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il viendra bientôt pour rétablir toutes choses. Il prendra sa grande puissance et régnera. Il ôtera de son royaume tout ce qui est souillé et tous ceux qui font le mal. Les royaumes de ce monde deviendront les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. Les guerres de Canaan. Mais revenons à notre chapitre. Les enfants d'Israël étaient appelés à combattre les batailles de l'Éternel. Dès l'instant où ils ont posé leurs pieds sur la terre de Canaan, ils ont eu à faire la guerre à ses habitants. Des villes de ces peuples-ci que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras en vie rien de ce qui respire. Verset 16. C'était clair et formel. Non seulement la postérité d'Abraham devait posséder le pays de Canaan, mais encore elle devait être l'instrument pour exécuter le juste jugement de Dieu sur les habitants de ce pays, dont les péchés étaient devenus intolérables à Dieu. Nous n'avons nul besoin de justifier la manière dont Dieu agit envers les nations de Canaan. Dieu sait ce qu'il fait, et nous n'avons pas à lui demander une justification ou une explication. Le fait est que les Israélites devaient exterminer ces nations coupables. Mais ils ne se conformèrent pas à ce qui leur avait été commandé. Ils laissèrent vivre un grand nombre de ceux qu'ils auraient dû détruire entièrement. Et ceux-là devinrent les instruments de la ruine des Israélites en les incitant aux iniquités qui avaient appelé sur eux les jugements divins. Qualité nécessaire aux combattants. Le commencement de notre chapitre est rempli d'instructions précieuses pour nous dans les combats spirituels que nous sommes appelés à livrer. Quand il fallait s'approcher pour combattre, le peuple était interpellé d'abord par le sacrificateur et ensuite par les officiers. Le sacrificateur exposait au peuple ses privilèges, puis les officiers venaient lui rappeler sa responsabilité. Tel est l'ordre divin. Le sacrificateur devait encourager le peuple à ne pas craindre, à ne pas faiblir, parce que l'Éternel, leur Dieu, marchait avec eux pour combattre contre leurs ennemis et pour les sauver. Peu importait le nombre ou la puissance de leurs ennemis. Ils ne seraient qu'eux comme la balle balayée par le vent en présence de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël. Mais le magistrat devait être écouté aussi bien que le sacrificateur. Et les magistrats parleront au peuple disant « Qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas consacrée? Qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la consacre. Et qui est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas joui? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Et qui est l'homme qui s'est fiancé une femme et ne l'a pas encore prise? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. » Et les magistrats continueront à parler au peuple et diront « Qui est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme le sien. » Et quand les magistrats auront achevé de parler au peuple, ils établiront les chefs des armées à la tête du peuple. Versets 5 à 9. Nous apprenons par là que deux choses étaient absolument essentielles à tous ceux qui combattaient les batailles de l'Éternel. Un cœur débarrassé de tout ce qui tenait à la nature et à la terre, et une confiance sûre et ferme en Dieu. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. 2 Timothée 2, verset 4. Il y a une différence importante entre être engagé dans les affaires de cette vie et se laisser embarrasser par elles. Un homme pouvait posséder une maison, une vigne et une femme, et pourtant être propre à faire la guerre. En elle-même, ces choses n'étaient point des obstacles. Mais si on les possédait dans des conditions qui les rendaient embarrassantes, alors leur possesseur n'était pas propre pour le combat. Il est bon de nous souvenir de cela. Comme chrétiens, nous sommes appelés à de constants combats spirituels. Nous devons conquérir chaque pouce de terrain céleste. Ce que les Cananéens étaient pour Israël, les puissances spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes le sont pour nous. Nous n'avons pas à combattre pour la vie éternelle. Nous la recevons en don gratuit de Dieu avant de commencer la lutte. Nous n'avons pas à combattre pour le salut. Nous sommes sauvés avant d'entrer dans le conflit. Nous combattons afin d'établir, de conserver et de manifester, en pratique, notre position et notre caractère céleste au milieu des circonstances de la vie journalière. Notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, comme pour Israël en Canaan, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. De quoi le soldat chrétien a-t-il besoin pour le combat ? D'un cœur complètement débarrassé des choses terrestres et naturelles et d'une confiance entière en Dieu. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, et ayant revêtu la cuirasse de la justice, et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priant par toutes sortes de prières et de supplications en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Éphésiens 6, versets 13 à 18. Remarquez comment le Saint-Esprit parle du soldat chrétien. Il n'est pas question de maison, de vigne ou de femme, mais il s'agit d'avoir l'homme intérieur gouverné par la vérité, la conduite dirigée par une réelle et pratique justice, les habitudes et les voies morales caractérisées par la paix de l'Évangile, l'homme tout entier recouvert du bouclier impénétrable de la foi, le siège de l'intelligence gardé par la pleine assurance du salut, et le cœur constamment soutenu et fortifié par la prière persévérante et les supplications. C'est de cette manière que le chrétien doit être équipé pour le combat qu'il est appelé à livrer aux puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Ville de Canaan et autres villes. Les Israélites avaient à faire la différence entre les villes qui étaient très éloignées d'eux et celles qui appartenaient aux nations condamnées. Aux premières, ils devaient tout d'abord faire des propositions de paix. Aux autres, ils ne devaient faire aucune grâce. Quand tu approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras à la paix. Et s'il arrive qu'elle te fasse une réponse de paix et qu'elle s'ouvre à toi, alors tout le peuple qui sera trouvé dedans te sera tributaire et te servira. Et si elle ne fait pas la paix avec toi, mais qu'elle fasse la guerre contre toi, tu l'assiégeras. Et quand l'Éternel ton Dieu la livrera en ta main, tu frapperas tous les mâles par le tranchant de l'épée, mais les femmes et les enfants et le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, tu le pilleras pour toi. Et tu mangeras le butin de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. C'est ainsi que tu feras à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne sont point des villes de ces nations-ci. Versets 10 à 15. Le devoir d'Israël n'était pas de faire une extermination générale. Les villes qui étaient disposées à accepter les propositions de paix devaient devenir tributaires du peuple de Dieu, et quant à celles qui ne voulaient pas traiter, tout ce qu'elles contenaient d'utile devait être conservé. Il y a dans la nature et sur la terre des choses qui peuvent être utilisées pour Dieu, qui sont sanctifiées par la parole de Dieu et par la prière. Si le chrétien possède des richesses terrestres, il doit les employer fidèlement au service de Christ, en faire part libéralement aux pauvres et à tous les ouvriers du Seigneur. Il doit les faire servir à propager l'œuvre du Seigneur en tout lieu. Ne pas couper les arbres fruitiers. Dans les dernières lignes de notre chapitre, nous avons un bel exemple de la manière dont notre Dieu s'occupe des moindres choses et de sa sollicitude pour que rien ne soit perdu ou endommagé. Quand tu assiégeras une ville pendant plusieurs jours en lui faisant la guerre pour la prendre, tu ne détruiras pas ces arbres en levant la hache contre eux, car tu pourras en manger. Tu ne les couperas pas, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi ? Seulement, l'arbre que tu connaîtras n'être pas un arbre dont on mange, celui-là tu le détruiras et tu le couperas, et tu en construiras des ouvrages pour assiéger la ville qui est en guerre avec toi jusqu'à ce qu'elle tombe. Versets 19 et 20. Que rien ne soit perdu. Jean 6, verset 12. Tel est l'ordre de notre Maître, ordre que nous ne devrions jamais oublier. Nous devons être soigneusement en garde contre tout gaspillage.